Radio Barque, 14e, 3e partie. Alors, c'est celle que l'on consacre à notre invité, Patrick Milani. Je disais tout à l'heure que vous êtes enseignant, mais surtout, vous avez des activités d'écrivain, de polar, entre autres. Et puis, vous êtes devenu récemment cinéaste. Alors, cinéaste narbonnais, je précise, ce qui n'est pas de la tarte en soi, puisque, évidemment, il faut faire beaucoup de choses. Et peut-être pouvez-vous nous expliquer quel est le déclic à un moment qui vous a amené à vous éloigner un peu du professorat dans vos moments de loisirs ?
Ben, vaste question. Si, ce qui m'intéresse, c'est... Moi, je m'intéresse aux idées. Et donc, le meilleur moyen de travailler les idées, ben, c'est encore de travailler sur tout ce qui est support de communication, donc l'écriture et aujourd'hui le cinéma. Je crois que pour comprendre un peu ce que je viens de dire, il faut essayer de voir un peu l'étendue de mon travail. C'est-à-dire que ce que je fais, ça peut se voir. Il peut y avoir une double lecture. Il peut y avoir une lecture disons légère, qui est de voir les histoires que j'écris. Alors, sur les histoires, ça peut être à la fois des histoires drôles, émouvantes, des histoires sentimentales. C'est-à-dire que moi, j'aime les histoires, donc je raconte des histoires. Ça, c'est la partie un petit peu...
Oui, bah, c'est l'écrivain, finalement, commence par là.
Ouais. Sauf que derrière, il y a une deuxième partie qui est plus la profondeur, qui est un peu la philosophie qui inspire tout ça. Celle qu'on retrouve un petit peu comme fil conducteur de l'ensemble.
Alors, en tant qu'écrivain, on va d'abord se consacrer à cette première phase. Quand on est écrivain local, donc, on écrit, d'accord, mais ensuite, il faut faire publier. Alors déjà, il faut trouver un éditeur, etc.
Non, faire d'auto-édition, c'est compliqué.
Voilà. Donc déjà, vous avez pris le taureau par les cornes. Expliquez-nous comment déjà vous avez réussi à vous faire publier.
Ben, tout simplement en envoyant mes manuscrits à des éditeurs et qui les ont acceptés. Alors, des fois, on a même le défaut, comme on ne croit pas assez à ce qu'on fait, d'accepter le premier qui accepte de prendre vos livres.
On n'est pas assez difficile, vous voulez dire.
Ben oui, c'est-à-dire que quand on n'est pas... Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la réputation, quoi. C'est la notoriété. Et quand on n'en a pas, envoyer un manuscrit. Je veux dire, la plupart des éditeurs avec lesquels depuis j'ai eu des relations vous disent qu'ils reçoivent chaque jour 60, 80, 100 manuscrits. Et donc, surtout au niveau des éditeurs régionaux, ils n'ont pas la capacité de publier beaucoup. Donc, le choix est encore plus draconien. J'ai envie de dire presque que pour des éditeurs d'envergure qui publient plus et peut-être même reçoivent moins parce que il y en a qu'on n'ose même pas, il y a des portes qu'on n'ose pas franchir, Gallimard, Flammarion, etc.
Oui, les grands nationaux.
Oui, on n'a pas l'impression. Je me souviens une fois que je crois que c'était Marek Alter qui racontait que comment il avait été publié son premier livre, je crois que c'était chez Gallimard, je me rappelle plus très bien, et donc ses manuscrits étaient refusés partout, et donc il était ami de Mendes France, ces deux familles étaient proches, c'est Mendes qui l'a amené, qui l'a présenté, exactement, et donc l'éditeur lui a dit carrément, il va falloir quand même qu'on retravaille sérieusement votre livre, qui est loin d'être bon, quoi, et donc voilà, alors que le bouquin au départ n'était pas terrible, mais il a été édité. Donc c'est vrai que souvent, quand on est surtout dans un coin comme Narbonne, on n'ose même pas envoyer. Donc moi, je l'envoyais à des éditeurs. J'ai eu la chance d'être édité par exemple par NPL, la Nouvelle Presse du Languedoc, qui était à ce moment-là le plus gros éditeur du Languedoc. Mais les petites maisons d'édition aujourd'hui sont en grosse difficulté. Et notamment, je pense, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la micro-édition et l'édition à titre personnel, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui peut être écrit au niveau local, il y a des tas d'éditeurs qui sont plus à la limite des imprimeurs et qui squattent le terrain, quoi. Donc déjà, l'édition aujourd'hui, c'est difficile. Hein, la remarque que vous faisiez tout à l'heure est tout à fait juste sur le rôle du livre aujourd'hui dans notre société et qu'on a tendance un petit peu à négliger, quoi. Alors qu'effectivement, il faudrait le porter par l'école, etc. Quoi. Je veux dire, mettre un livre entre les mains d'un enfant, c'est pas anodin. Quoi, hein.
Et est-ce que Patrick Milani, après avoir publié plusieurs livres, c'est plus facile pour vous maintenant ? Vous avez trouvé des portes plus grandes ouvertes?
J'en ai, ouais, il peut y en avoir, mais.
Ou ça reste.
Oui, non, mais c'est toujours aléatoire, parce que. Alors, en plus, tout dépend de ce qu'on a envie de porter. C'est-à-dire que il y a des thèmes, il y a des.
Il y a des genres qui se vendent. Il y a des genres qui sont, voilà.
Oui, bon, de la même manière, on en parlera peut-être pour le cinéma tout à l'heure, qu'il y a des œuvres formatées pour le cinéma, ben, pour l'écriture, c'est un peu pareil. Donc, je sais pas, moi, par exemple, dans ce que j'écris, il y a deux types de livres. Il y a, ce que vous disiez tout à l'heure, les polars, enfin, la partie un petit peu politique, même si elle est des fois politico-humoristique, celle-là est très difficile à diffuser parce que il n'y a pas véritablement un marché qui est établi sur ça.
Il n'y a pas un public pour ça.
Si, le public, il y est. Si, le public, il y est. D'ailleurs, quand on met le livre entre les mains, moi, j'ai eu des tas de retours qui étaient excellents.
Mais alors, comment se fait-il qu'il y ait un public et pas de marché ? C'est contradictoire.
Non, ce n'est pas contradictoire. C'est souvent le cas. Il ne faut pas croire qu'il y a forcément un marché pour tout, uniquement lié au fait... C'est souvent... alors, c'est un vaste débat en économie. L'école de l'offre ou l'école de la demande ? Est-ce que c'est l'offre qui crée la demande ou est-ce que c'est la demande qui crée l'offre, bon, on ne sait pas trop. En matière culturelle, il y a des tas de produits qui sont de très bonnes factures, qui sont de très bonne qualité, et simplement parce qu'il n'y a pas les moyens de communication autour, et donc ils ne seront jamais connus, et donc ils ne perceront jamais. Mmh. Je veux dire, si vraiment il y a un secteur pour lequel la loi du marché prouve ses faiblesses, c'est bien celui-là, c'est bien celui de la culture. Hein. Quand on va dans le métro, on voit des musiciens hors pair. Et les gars, ils jouent dans des petits trucs, et pourtant, à la télé, on voit des gens qui chantent et qui ont des niveaux catastrophiques. Donc, je veux dire, est-ce que
voilà,
c'est le marché
beau,
qui...
Un beau parallèle. Et alors, comment se fait-il à un moment que vous ayez envie de passer à la caméra ? Alors, d'abord, quand je dis la caméra, des deux côtés de la caméra, parce qu'à un moment, vous êtes acteur, après, vous êtes réalisateur, etc. Ben, quel est ce déclic, là ?
Le déclic, c'est que l'image a quelque chose de fascinant, quoi. Hein. Et puis, bon, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que écrire un bouquin, écrire un livre, c'est quelque chose d'un petit peu frustrant, en ce sens que c'est un travail individuel. C'est-à-dire qu'on travaille tout seul, dans son bureau, isolé. Alors que le cinéma, c'est une action collective.
Sûr.
Et ça, je trouve ça, surtout dans notre époque, je trouve ça assez enrichissant. C'est vrai qu'on a tendance à dire que ce film, je l'ai fait un peu tout seul, mais ce n'est pas vrai en même temps. Il y a 36 acteurs qui ont joué dans le film.
Alors ce film auquel vous faites allusion, nommez-le, c'est un film que vous venez de sortir.
Oui. C'est un film qui vient d'être achevé, qui s'appelle Plongée en eau amère, qui en gros...
Dont vous avez écrit le scénario aussi.
Je l'ai écrit, oui, j'ai écrit le scénar. J'ai fait aussi la réalisation, pas spécialement parce que j'avais envie de le faire, mais parce que la nécessité fait loi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on est à Narbonne, qu'on n'a pas de moyens, ben, si on veut pouvoir créer, ben, il faut se prendre par la main et dire, voilà, ben, ce que... Là où j'ai personne pour faire le travail, je vais le faire moi-même. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, j'aurais préféré qu'il y ait un réalisateur, qu'il y ait des musiciens, qu'il y ait, bon, etc., un cadreur.
Michel, une main.
Oui, non, mais c'est marrant parce que je me suis fait la même réflexion quand j'ai ouvert ce blog. Hein, et je vais me conférencer sur le sujet un jour à l'occasion des universités nomades. Hein, mais pourquoi faites-vous ça ? Mais je fais ça parce que, donc, d'abord, j'en ressens le besoin intellectuel, mais aussi et surtout parce que je constate que ce que je ne lis pas ce que j'aimerais lire en fait dans certains supports médiatiques locaux. Donc voilà, très modestement, peut-être trop narcissiquement, je me suis dit ben j'y vais, hein, et puis je constate qu'effectivement là du coup il y a une demande et que ça répond.
Alors Patrick Milani, vous avez un scénario, vous avez une caméra, ouais, mais ça suffit pas. Vous avez pas des fonds Qatar ou autre, pour acheter des acteurs. Donc non, après, il vous faut trouver des acteurs. Puis ensuite, il va falloir faire un montage. Puis ensuite, il va falloir trouver des salles pour diffuser ces films.
Tout à fait. Alors c'est vrai que donc, des fonds, on n'en a pas. Pour un peu les mêmes raisons que celles que j'ai évoquées tout à l'heure par rapport à la culture en général. C'est-à-dire que pas de notoriété, pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Et le cinéma, c'est encore pire parce que ça coûte énormément. énormément d'argent. Un long métrage, moi je viens de faire un long métrage en France, ça coûte 2 millions d'euros. Donc bon, c'est en moyenne. Donc ça veut dire que quand on investit, quand on trouve des producteurs qui ont envie d'investir là-dedans, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc de ce fait, là on est effectivement obligé de coller à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire au marché. Parce que si le public n'est pas là, on perd 2 millions d'euros. Quand on fait ce que je fais, c'est ça l'intérêt aussi d'appartenir à ce courant qu'on appelle le cinéma indépendant. C'est que même sans argent, on peut arriver à produire, on peut faire autre chose que des produits formatés, donc ça nous laisse une fraîcheur, une liberté. Alors évidemment, la contrainte, c'est que n'ayant pas tous les moyens, ben, ça restreint dans ce qu'on peut faire. Mais en même temps, ce n'est pas forcément qu'un inconvénient, parce que ça permet de faire autre chose. C'est-à-dire que l'image, je ne sais pas, je vais pas citer Guy Debord, contre le cinéma,
la société
du spectacle, le pouvoir hypnotique de l'image, mais aujourd'hui on est complètement dans ça. C'est-à-dire qu'avec la technique qu'on a, on est capable, à la limite, de faire prendre l'abstraction pour le réel, quoi. Et d'une manière même, l'abstraction dépasse le réel. Parce que justement, dans le monde où on vit, on a besoin de s'abstraire. Et donc, quoi de tel que de rentrer dans un personnage et de se laisser porter. Donc...
Alors, comme maintenant, vous avez besoin d'acteurs, alors là, vous n'êtes plus dans l'abstraction. Il faut les trouver et il faudra qu'ils soient bénévoles puisqu'il n'y a pas de fonds. Alors, vous avez suffisamment sur la Narbonnaise une réserve d'acteurs prêts à tourner bénévolement.
Alors, pour être honnête, il n'y a pas eu que des acteurs de la Narbonnaise. Il y en a qui sont venus de Montpellier, de Sète. Mais il y en a sur Narbonne, oui. Il y a des gens de talent qui ont joué dans ce film. Je pourrais en citer quand même quelques-uns. Alors, Stéphane Kowalczyk, qui avait fait la réalisation de mon autre précédent film.
Qui, lui, d'habitude, est plutôt derrière la caméra que devant. Oui,
c'est vrai, enfin, témoigner.
Donc, c'est lui qui a fait donc, Du bleu au-dessus des toits. Et d'autres films... est intervenu en tant qu'acteur dans ce film, et d'ailleurs avec beaucoup de brio, avec beaucoup de talent. Il y a d'autres personnes du coin qui jouent, alors pour les citer un peu dans le désordre.
Oui, quand même, on peut leur rendre cet hommage, surtout s'ils sont bénévoles.
Mais bien sûr, il y a Jean-Paul Jauguin, excellent Jean-Paul
Jauguin. Qui est quand même assez connu, lui.
Oui, très bon acteur. Donc voilà, des gens comme lui, qui sont des acteurs et qui en même temps aujourd'hui ont une activité professionnelle d'acteur, viennent bénévolement. Alors c'est pareil, alors... ce que j'espère, c'est qu'on se renverra l'ascenseur, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, lui fera d'autres choses auxquelles je participerai. Alors Jean-Paul Jauguin, Nathalie Coquille, Bernard Brett, Antoine Géa, tout un tas de gens comme ça. Il y a 36 personnes, je ne vais pas vous faire une liste, mais qui ont des capacités. C'est-à-dire, alors ça aussi, il faut le dire, quoi, les fonds, par exemple, de la région qui sont affectés au cinéma, il y en a quand même. Mais la plupart du temps, ils ne vont pas sur du cinéma local. Et notamment, ils ne vont pas pour payer des acteurs locaux. À la limite, on prend quelques techniciennes de la région, mais hélas... Et alors, le gros truc, alors ça, pour moi, c'est hyper important, ce que vous aviez dit, c'est le problème de la diffusion, de la projection des films.
Voilà,
vraiment, il y a un moment où on a besoin d'être aidé, à la limite, bon, qu'on ne nous donne pas d'argent pour faire les films, qu'on n'ait pas confiance en nous, pourquoi pas. Mais une fois que le produit est là...
Vous avez besoin des salles de diffusion.
On a besoin de salles, quoi. Alors, donc, je veux dire, là, il y a un moment où il faudrait quand même que les décideurs nous soutiennent. Alors, on a une chance extraordinaire sur l'Aude, c'est Cinémode.
C'est un réseau de cinéma.
Oui, c'est un réseau, véritablement.
Alors là, il faut vraiment, moi je crois qu'il faut insister là-dessus, à des tas de niveaux. Hein, quand on critique ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, le cinéma industriel, on peut dire que Cinémode est capable de porter aussi bien du cinéma d'art et d'essai, du cinéma d'auteur, que du cinéma plus commercial. Mais c'est surtout, il recrée dans les villages ce que devrait être le cinéma, c'est-à-dire... un réseau, des liens sociaux. Pour reprendre encore ce qu'on disait tout à l'heure sur Debord dit que le spectacle, finalement, arrive à rassembler des gens séparés, mais en tant que séparés, c'est-à-dire qu'on reste isolés. Quand on fait du cinéma dans des petites salles, dans les villages, on peut faire un débat après, on peut partager. Et ce film-là, notamment, Plonger en eau amère, c'est ce à quoi il invite. C'est-à-dire qu'en gros, ce film, curieusement, là, on ne peut pas dire que je ne sois pas dans l'actualité, on retrouve un écrivain, un journaliste qui est assassiné, et donc on s'aperçoit que ce garçon était en train d'enquêter sur les réseaux d'extrême droite qui sont en pleine progression et qui donc sont en train de chercher comment ils vont pouvoir accéder au pouvoir. Et donc, par rapport à ça, il y a une enquête qui permet d'étudier notre société aujourd'hui. Pourquoi, aujourd'hui, l'extrême droite est en train de progresser massivement et à quel moment il va quels seront les moyens qui seront utilisés éventuellement pour accéder au pouvoir, quoi.
Donc, en conclusion, vous arrivez quand même à trouver, ne serait-ce que par Cinémode, un réseau pour diffuser le film.
Ben, on a celui-là, ouais, qui est quand même... moi, je trouve que c'est un réseau extraordinaire. Alors, en plus, son président, Martinol, est un homme, c'est presque un militant du cinéma, le gars. Je veux dire, il vient partout. Quand on a présenté Du bleu au-dessus de toi, il nous a accompagnés à Quillan, à Limoux. Le gars était là. C'est quelque chose qu'il faut noter. Alors, je noterai aussi la municipalité de Gruissan, qui nous soutient régulièrement. Il faut le dire, quoi. Je veux dire, autant il y a des moments où on nous aide. Quand il y a des gens qui nous aident, hein, notamment...
Surtout si c'est rare.
Monsieur Bedos, l'adjoint de la culture de Gruissan, oui. Qui est toujours présent. Là, il va présenter la bande-annonce de notre film, quoi, à la fête du cinéma vendredi prochain à Gruissan. Donc, il faut noter ces initiatives-là, quoi.
Bien sûr.
Eh bien, oui, on va conclure. Merci, donc, Patrick Milani, de nous avoir fait découvrir qu'il existe un cinéma narbonnais, qu'il existe des gens qui font du cinéma. Oui, une petite précision.
Et en profiter que ça se situe dans une histoire, en fait, hein, une narbonnaise qui, quand même, a eu un grand réalisateur, je pense à Jean Eustache, quoi, hein, qui était... Bon,
oui, mais qui a suivi d'autres chemins.
Oui, mais qui a fait des films sur Narbonne et avec des acteurs narbonnais et en présentant la ville de Narbonne elle-même.
Voilà. En tout cas, merci Patrick Milani de nous avoir fait découvrir ce monde que j'imagine beaucoup de Narbonnais ne connaissaient pas, ou pas suffisamment. Et vous nous tiendrez au courant, bien entendu, des projections de votre film lorsque ce sera le cas.
Alors je crois qu'il y en a une, il faut déjà le dire, qui est prévue au Café de la Poste.
À Narbonne.
Oui, à Narbonne, oui. Donc, puisqu'ils essaient de monter aussi un courant un peu culturel avec... voilà. Et donc, je crois que c'est l'avant-dernier vendredi de janvier. Ça doit être le 18 ou le 20 janvier.
On en reparlera à ce moment-là.
Le film sera aussi... devrait aussi passer à Périac, Minervois. Parce que ce genre de film... C'est fait aussi pour appeler au débat. Et donc, je crois qu'il va... Il y a plusieurs endroits où il est prévu en projection, déjà, pour qu'il y ait un débat, après, notamment sur le thème qui est traité, qui est le thème de l'état de notre société aujourd'hui et la progression de l'extrême droite.
Eh bien, on y reviendra, à ce moment-là. Il y aura, pour ce Radio Barque, une trêve des confiseurs au moment de Noël et du premier de l'an, mais... On a encore un Radio Barque la prochaine fois où nous recevrons Claude Guillot, qui est un responsable de l'Arche. Et là, on verra un autre travail qui est fait à Narbonne par des Narbonnais. Il viendra nous expliquer ceci en détail.
Très bien.
Merci et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir. Merci.